être mort pour pouvoir renaître dans la vraie vie. Et Jésus reviendra plus tard dans Matthieu 16 pour dire tout simplement que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre beaucoup de choses spirituelles, tout simplement parce que ils ne croyaient pas à l'accomplissement de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, en quelque sorte, ils souffraient, comme nous pouvons en souffrir aussi, des manques de discernement. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il leur dira que vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel. Mais pour ce qui concerne les choses, selon l'étendue des dieux, vous ne pourrez pas, tout simplement parce qu'ils avaient les regards voilés. Il est bien malheureux, celui qui sait, comme nous aussi, prévoir les temps, que nous ne soyons pas en mesure de voir les temps de Dieu. Et aussi parfois de voir les interventions de Dieu dans nos vies. Oui, nos vies de chrétiens est parsemée des signes, des interventions divines. Mais qu'il est parfois difficile de les discerner. Au début de l'année, j'avais parlé d'un temps d'arrêt, que nous ne nous arrêtons pas, nous continuons à courir. Et parfois, il nous arrive de ne plus savoir si on va dans quelle direction. Tout simplement parce que nous ne lisons pas, nous analysons pas notre vie. C'est comme quelqu'un qui écrit à la machine, et qu'il y a des erreurs de frappe, mais la personne continue. Et à la fin de son texte, quand il va regarder, il y a des moments où les phrases ne voudront plus rien dire, tout simplement parce qu'il est passé trop vite. Et nous aussi, il nous arrive de ne pas prendre le temps de réfléchir sur les événements de nos vies, sur les échecs, et les bénédictions, et voir leur portée spirituelle. Alors, on demande un signe de la puissance de Dieu. Oui, nous sommes ici présents, tous, presque, reconnaissons la Bible comme n'étant pas un livre comme les autres. Elle est la parole vivante et permanente de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, d'une manière assez accrue, même dans les milieux chrétiens, on se retrouve devant la même attente, une génération qui veut les miracles de Jésus. On veut voir des choses extraordinaires. Et malheureusement, on finit par effriter l'enseignement biblique. La parole est suffisante. La base du salut et de la marche avec Dieu n'est pas l'expérience, je dirais, mais la parole de Dieu. La véritable foi est fondée sur l'Écriture. Comme dira Luther, sola scriptura, celles les Écritures. Lorsque Satan suggérait à Jésus de réclamer un miracle en transformant des pierres en pain, après 40 jours de jeûne, Jésus l'a refusé en affirmant la primauté de la parole de Dieu sur la dimension physique. Nous trouvons ces textes, ces récits dans Matthieu 4, versets 3 à 4. Cela n'exclut pas que Dieu peut toucher les corps et d'autres domaines, mais la parole de Dieu est le fondement qui permet de le reconnaître. Les disciples allaient prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirme la parole par ses miracles. La parole n'est pas au service des miracles, ce qui serait le summum, mais le contraire. La prédication de la parole permet d'écouter Dieu, de le rencontrer. Quand la Samaritaine dit aux habitants de son village tout ce que Jésus a révélé de sa vie, ils sont intéressés à le voir, mais ensuite leur foi est autrement solide. Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela nous conduit à une autre constatation que Jean rapporte. Lorsque le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait laissés devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus rejetaient aussi pour la même raison. Pars d'ici, afin que les disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car ses frères ne croyaient pas en lui. Malgré les miracles de Jésus, il y avait refus de croire. Aussi, d'autres passages de la Bible soulignent la foi superficielle de ceux qui pourtant ont cru en Jésus parce qu'ils ont vu faire des miracles. Même si ce n'était pas systématique, une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Cette curiosité et ce genre de voyeurisme l'emportaient sur une foi profonde qui s'appuierait sur son enseignement. Beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux car il les connaissait tous très bien. Il connaissait les fonds de leur cœur. Cela, nous le trouvons dans Jean chapitre 23 à 25. Cette foi qui repose sur des faits extraordinaires, mes chers frères et sœurs, ne peut pas être solide. Oui, le Seigneur veut nous apprendre comment considérer sa puissance. Il est nécessaire de discerner le plus grand miracle, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Et que même si nous réclamons, malheureusement, nous avons souvent vu des gens prier pour des malades, et il y a des gens qui disaient par exemple que nous voulons que notre frère guérisse, et parfois dans l'assemblée, il y a des gens qui disaient « aujourd'hui même ». D'accord. Mais le problème, c'est que jusqu'au lendemain, la sœur était toujours malade. Et je pense que nous avons quand même quelque part un problème avec les miracles. Et si nous voulons aller plus loin, nous pouvons voir, nous pouvons nous poser la question de savoir à qui croyons-nous ou à quoi. Je vais quand même vous raconter, bon, je dirais deux histoires. C'est quand nous étions en Centrafrique, dans la République centrafricaine, il y avait une période de sécheresse. C'était vraiment terrible parce que, je ne sais pas si vous connaissez la terre rouge, quand il fait très très chaud, ça donne de la poussière rouge et les gens qui passent à vélo, ils ont des cheveux, tout est rouge, c'est un peu folklorique. Et puis, alors, il y a, pendant cette période, il pleuvait, il n'a pas plu pendant très longtemps. Et il y a un évangéliste qui est arrivé de l'Europe. Et puis, il a installé toutes ses affaires pour des campagnes, des grosses campagnes d'évangélisation. Et puis, c'était dans un stade. Il s'est mis à prier, à prier, à prier. Ne vous en faites pas, il va pleuvoir. Je vais prier pour que ça... C'est pas de problème. Après, vers 2 heures de l'après-midi, ah, il s'est mis à pleuvoir, mais les torrents, ça a tombé dans tous les sens. Ah, il a dit aux gens de ne pas s'éloigner, de rester sous la pluie. Les gens sont restés. Oh, c'était fantastique, c'était quelque chose de merveilleux. Mais le problème, c'est que quelques jours après, nous avons appris qu'il était bien en contact avec les services météo, qu'il avait signalé que tel jour, il allait pleuvoir. Et, ah ben oui, mais il y a des gens qui étaient... Et ce qui était amusant, c'est que après cet événement, il y a des enfants qui jouaient dans la rue. À chaque fois, parfois, quelqu'un tombait ou il se sentait mal, tout le monde l'élevait, on l'amène chez l'évangéliste parce qu'il va les guérir. C'était devenu vraiment folklorique. Alors tout ça, la recherche de miracles. Et là, les scribes voulaient prendre Jésus pour un faiseur de miracles, alors que nous savons que et Jésus savait leurs intentions, il connaissait ce que... Malheureusement, ils étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas lire ce qui est prévu, même dans leur Torah, dans les livres de la loi. Nous avons lu ce matin Ésaïe 42, tout ce qui était prévu, qui allait s'accomplir dans le Nouveau Testament, ils ne pouvaient pas le voir. Ils sont venus tout simplement parce qu'ils voulaient que Jésus fasse un miracle comme le font les magiciens dans des soirées. Mais, hélas, nous qui sommes là aujourd'hui, nous sommes aussi concernés. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous allons nous mettre sur les bancs des accusés, tout simplement pour savoir qu'il nous arrive parfois aux informations d'entendre des gens qui dominent sur d'autres personnes que nous appelons des gourous ou des gens dictateurs. Mais ce que nous oublions, c'est que c'est nous qui créons ces personnes. Nous les créons parce que nous croyons en eux et non pas à la parole. Il y a des gens qui confient toute leur vie à des pasteurs. Nous avons des gens qui s'éloignent de toute leur famille parce que son église le conseille de ne pas être en contact avec sa famille. Oui, parce que nous disons, nous nous mettons en tête que c'est lui parce qu'il fait des miracles. Et quand nous allons vérifier ces miracles, parfois ça fait rire parce que c'est un peu parfois nous qui sommes pris pour des idiots. Il y a un pasteur, s'il faut l'appeler ainsi, qui est en Afrique du Sud. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Et lui, il est devenu... Il a beaucoup d'argent, beaucoup. Il compte parmi les 10 pasteurs africains qui ont beaucoup d'argent. Et lui, dernièrement, il voulait faire un miracle, mais son miracle a loupé. Il voulait qu'il commençait à ressusciter des gens. Mais c'est comme l'expression qu'il faut utiliser, c'est « ça foirait ». C'est vraiment l'expression qu'il faut. Parce que il est venu pour prier pour quelqu'un qui était mort, qui était dans le cercueil. Tout le monde arrive, la famille en pleurs. Mais c'était du cinéma. Avant qu'il commence à prier, les corps avaient bougé. Allah, ça fait le tour du monde. Et il devait s'expliquer comment ça se fait que la personne bouge avant que toi tu commences à prier. Et il y a beaucoup, plein de numéros dans des églises où tu arrives, quelqu'un commence à parler de ta vie privée et puis tu te retournes, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que il a la facilité de consulter des documents ou des choses sur toi sans que toi tu les saches. Et voilà, on est à l'affût, on veut des miracles. On veut des miracles, les gens feront 10 000 quelques kilomètres, 10 à 20 kilomètres les dimanches pour aller dans l'église où il y a tel pasteur parce que lui, il a la puissance. De quelle puissance parle-t-on? Moi, je ne sais pas. Mais du coup, les cultes sont assurés des impositions des mains ou les gens qui vous font tomber. Demandez, les gens convulsent, les gens entrent en transe. Vous vous dites, mais où suis-je? Et les gens, ils sortent, il y en a qui sont heureux. Oh, c'était formidable. Qu'est-ce qui était formidable? Ah non, tout ça, mais oui, mais non, les gens ne se tiennent. C'est le pasteur qui est les puissances. C'est ça qui est dommage, parce que nous ne revenons pas à la parole pour dire, mais la parole ne dit pas ça. Jésus ne faisait pas comme ça. Nous nous entraînons, nous sommes bien là-dedans. Et ce n'est que quand quelqu'un vous arrêtera, vous allez dire, ah, au fait. Et moi, je pense que nous devons, c'est un cri d'alarme, de savoir qu'à force de chercher des miracles, alors que nous cherchons quelque chose que nous avons la parole de Dieu qui nous permet de les rencontrer, qui nous permet de vivre pleinement la vie en Christ. Nous sommes à l'affût des miracles. Et c'est pour cela que je vais vous inviter à lire Éphésiens chapitre 4, verset 14. C'est juste une lecture sans beaucoup de commentaires, de savoir tout simplement que nous devons être solides . Alors, verset 14, ça dit ceci. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens des séductions, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage tirent son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà donc que nous soyons ancrés en Christ. Pour qu'on ne vienne pas nous raconter une fois « Ah !» Et ce qui est dommage, souvent, l'église locale, c'est une expérience. C'est-à-dire que nous sommes ensemble pour pouvoir nous édifier. Si c'est moi, vous êtes dans l'église A et les mois d'après dans l'église B et le lendemain vous êtes dans une autre église, ainsi de suite, vous n'êtes pas stable. Et surtout quand on vous dira, ah non, là-bas ça se passe bien, ah bon, une masse, on y va là-bas. Quelques temps après, les miracles ne sont plus pareils. On répare ailleurs, on est toujours à la recherche. Donc cette instabilité symbolise tout simplement qu'on n'est pas ancré en Christ. Mes chers frères, nous les chantons bien de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies. Regardons les miracles qu'il y a dans nos vies. Regardons des choses que nous n'arrivons pas à expliquer. Pour nous, nous trouvons que nous marchons, nous continuons à courir. Mais arrêtons-nous de temps en temps dans nos vies, pour voir où est-ce que le Seigneur a agi. Où est-ce que le Seigneur m'a béni? Où est-ce que le Seigneur m'a arrêté? Pour que je prenne conscience de l'endroit où je me trouve. Oui, comme Jésus a répondu au scribe, le seul miracle ultime, c'est la mort et la résurrection du Christ. Que sa parole soit bénie. Amen. Je laisse Emmanuel.